Tapis. Grand reportage.
Épicentre de l'épidémie de coronavirus, le continent américain connaît une situation sanitaire alarmante. Un pays tire cependant son épingle du jeu dans la lutte contre le Covid-19, Cuba. L'île communiste déplore pour le moment peu de contaminés. La propagation du virus semble contrôlée, mais les files d'attente pour s'approvisionner pourraient devenir de nouveaux foyers de l'épidémie. Avec la fermeture des frontières, Cuba doit désormais faire face à des pénuries. Coronavirus sous contrôle, l'économie cubaine dans un état critique, un grand reportage de Domitille Piron, réalisation Pierre Chaffanjon.
Il faut se lever tôt à La Havane pour s'approvisionner dernièrement. Dans cette rue d'ordinaire plutôt calme, il y a un brouhaha inhabituel. C'est une file d'attente. Il est 8h du matin et plus de 150 personnes patientent en accordéon sur 130 mètres en attendant l'ouverture d'un petit magasin qui vendra du poulet une heure plus tard. En accordéon parce que les potentiels acheteurs se rapprochent les uns des autres à mesure de l'attente ou cherchent un peu d'ombre à l'abri d'un flamboyant et d'un palmier, puis se séparent à un mètre les uns des autres quand l'un d'entre eux rappelle à l'ordre pour faire respecter les distances de sécurité. Dans la queue, le jeune et grand William Mesa Oliva a l'air fatigué. Il est là depuis 6 heures du matin, avec son foulard en tissu bariolé qui lui cache la moitié du visage, son chapeau et ses lunettes noires. Il se tient le plus possible à l'écart pour éviter les contacts.
Oui, je trouve ça un peu dangereux. Nous sommes tous les uns sur les autres. Et les gens se disputent et se chamaillent. Je trouve ça un peu dangereux. Les gens ne respectent pas les distances. Ils n'ont pas conscience du danger.
Cela fait plus d'un mois que ce jeune homme n'a pas mangé de poulet. Alors ce matin-là, il s'est résigné à faire la queue. Après 2h30 d'attente, il obtient un ticket, le numéro 111 sur 200, en échange du scan de sa carte d'identité. Un nouveau système qui permet d'éviter l'accaparement des marchandises et la revente au marché noir, mis en place par les organisateurs de files d'attente. Une fonction apparue il y a quelques semaines. William ne comprend pas vraiment comment il a pu en arriver là pour du poulet.
En viande, c'est la seule chose qui se vend en ce moment en ville, parce qu'il n'y a plus de porc ni de mouton. Toutes ces viandes qui, avant la pandémie, se trouvaient facilement ont disparu. Et la seule chose qu'on trouve, c'est du poulet. Alors, vous imaginez bien, si vous voulez manger de la viande, il faut faire la queue. Sinon, on mange des œufs, quand il y en a. Ou du jambon, quand il y en a.
Alors qu'on appelle le numéro 107 dans cette file d'attente du quartier de Playa, un peu plus loin dans le Vedado, la jeune médecin Yvonne Pérez Lapinel entame sa tournée au numéro 11107 de la rue 19. C'est ici que commence son porte-à-porte quotidien. Depuis 2 mois, la médecin qui commence sa carrière est chargée avec l'infirmière de son cabinet médical et des étudiants en médecine de sonder la population pour faire de la recherche active de cas suspects de coronavirus.
On fait cette recherche chez toutes les personnes qui sont suivies dans notre cabinet médical. On va de maison en maison pour voir comment vont nos patients. On leur demande comment ils se sentent, s'ils ont des symptômes respiratoires. Et dans le cas où une personne se sentirait mal ou ressentirait des symptômes qui pourraient être ceux d'une infection respiratoire, alors on l'examine. Et si l'on considère qu'il est un cas suspect de Covid, on le conduit à l'hôpital ou dans un centre d'isolement.
Une méthode qui a permis dès le début de l'épidémie sur l'île au mois de mars de détecter, entre autres, une patiente qui avait emporté avec ses bagages de touriste le coronavirus dans ce quartier du Vedado à La Havane et contaminé une autre personne. Docteur Pérez Lapinel.
Nous avons géré cela de la meilleure manière possible et nous avons contrôlé cette contamination. C'est vrai qu'au début, la population était inquiète parce que nous n'avions jamais vécu cela. Mais nous avons contrôlé la situation et il n'y a pas eu de problème.
Et la population qui voit quotidiennement ces blouses blanches se sent rassurée, informée des risques et des mesures sanitaires à prendre. Dans ce pâté de maison, on ouvre la porte au médecin et à l'infirmière en robe de chambre. Pas tout à fait réveillée, on s'excuse aussi de ne pas pouvoir offrir le café devenu une denrée rare. Elva Padron, une élégante septuagénaire, très bavarde, est très reconnaissante de ce travail de l'équipe médicale de quartier, composée de cette médecin et d'une infirmière appelée « zone d'attention ».
Ici, nous avons Zoé, qui est infirmière et qui connaît tout le monde. Zoé est une infirmière très efficace. Je ne le dis pas parce qu'elle est là. Si je ne le pensais pas, je ne le dirais pas. Mais Zoé nous suit très bien et tout le temps, et connaît tous les gens du quartier. Et la zone d'attention joue un rôle très important. Ce dialogue entre la population et le médecin de quartier est très très bon.
Cette septuagénaire, comme sa voisine Madame Samora, estime que cette attention médicale de proximité joue un rôle fondamental pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, comme en temps normal.
Alors, tout va bien ici aujourd'hui ?
Oui, enfin bon, il y a toujours mon beau-fils qui souffre avec son asthme, mais ça, c'est depuis toujours.
Et vous n'avez pas de fièvre, de toux ?
Oui, oui, tout le monde va bien, grâce à Dieu. Et à la révolution. Et aux médecins, et aux services de santé. C'est vrai, ils viennent nous voir chez nous. Nous n'avons pas à nous déplacer. Moi, j'ai 80 ans et je souffre de 20 000 choses. Mais je vais bien. J'ai été opérée de 4 cancers et je suis toujours là. Je vais bien, grâce à la santé cubaine. Sinon, je crois que je serais enterrée depuis longtemps.
Et donc, vous ne sortez pas de chez vous, comme le préconise le médecin ?
Non, surtout pas. Je ne sors pas du tout.
Et pour vous approvisionner, comment faites-vous ?
C'est ma fille qui sort parce qu'elle est plus jeune, ou mon petit-fils. Mais moi, je ne sors même pas devant la porte.
Sortir, c'est s'exposer au risque d'être contaminé. Mais dans le contexte économique de Cuba, qui importe 80% de son alimentation et affronte des difficultés d'importation dues à la crise mondiale du coronavirus et aux sanctions américaines, il faut sortir quotidiennement pour faire les courses. Nous voici devant un autre magasin, toujours dans le Vedado, où plus de 100 personnes patientent. Tout le monde porte un masque et personne ne sait ce qu'il y a dans le magasin. Yo Andrea Puesto semble agacé après une heure d'attente sans avancer d'un centimètre.
Ici, on achète ce qui apparaît. Avec ou sans coronavirus, c'est un vrai bordel. Les files d'attente se forment pour tout et n'importe quoi.
Et il faut dire qu'en ces temps de coronavirus, certaines files d'attente prennent des proportions impressionnantes. Juan Carlos Alonso a quelques mètres d'avance sur Yonde.
Tout s'est empiré, c'est bien pire qu'avant. Il y a des pénuries de nourriture, des pénuries de tout. Je préférais ne pas être ici dans la rue, rester chez moi et m'isoler, mais il faut sortir pour aller chercher de la nourriture.
Si la crise du Covid-19 a paralysé certaines activités, les transports et les écoles, la Havane reste très animée par ces files d'attente. Les produits étant rationnés, les Cubains étant inquiets par d'éventuelles pénuries à venir, elles s'allongent toujours plus. On fait toujours la queue, sauf pour les légumes, explique cette dame, car effectivement, les Cubains ne sont pas très friands de verdure, ce qui ne les empêche pas d'être collés serrés sur les marchés. Alors quand on croise cette scène de Cubains qui jouent des coudes devant un étal de carottes et d'oignons avec notre jeune médecin, Yvonne Pérez-Lapinel, on lui fait remarquer qu'il semble difficile de faire respecter les distances de sécurité. Et immédiatement, l'infirmière qui porte une petite coiffe, une blouse et un pantalon blanc leur ordonne de se séparer.
Bon, on a déjà tout expliqué. Alors quand on voit ça, eh bien on leur rappelle tout simplement qu'ils doivent respecter le confinement si possible, qu'ils doivent maintenir une distance d'un mètre, 1,50 m entre chacun, qu'il ne faut pas s'agglutiner. Mais les gens ont pris conscience des dangers et du risque de ne pas appliquer ces mesures. Je dirais quand même que la majorité des gens font les choses bien.
La grande majorité si maintient les mesures nécessaires et fait les choses correctement.
La recherche active de cas suspects permet donc aussi à cette médecin, à l'infirmière et aux étudiants de rappeler à l'ordre les récalcitrants aux mesures d'hygiène et de sécurité. Au début de l'épidémie, plus de 28 000 étudiants en médecine ont en effet été envoyés dans les rues, visitant en moins de 15 jours tous les foyers cubains, permettant ainsi de détecter rapidement les foyers de contamination. Carila Ola Lingueño est en cinquième année de médecine, elle prend son rôle très au sérieux.
Cette activité fait partie de notre formation académique. La médecine cubaine a un caractère humaniste et universel, donc on doit couvrir toute la population. Et à chaque fois qu'une situation épidémiologique se présente, comme celle-là, ou la dengue, les maladies de climat tropicaux, on réalise cette activité de recherche. Quand on commence les études de médecine, on sait qu'avec les caractéristiques de notre pays et de la médecine médecine cubaine, on sera amené à faire cela et on l'accepte. Bien sûr, on a un peu peur parce que cette maladie est très contagieuse et qu'elle peut présenter un risque important pour la santé. Mais on sait que c'est notre responsabilité comme étudiants et futurs médecins de ce pays et on affronte la peur.
Pero sabemos que es nuestra responsabilidad como estudiantes, como futuros médicos de este país, y lo afrontamos.
L'autre étudiant qui l'accompagne n'est qu'en deuxième année de médecine et se plaint des kilomètres à parcourir et des escaliers à monter chaque jour. Marchons également à présent jusqu'à un autre magasin où se vendent ce jour-là des saucisses et des cuisses de poulet. Il est 13h. Gretel Quesada et sa mère patientent pour entrer dans ce magasin à l'ombre d'un grand arbre fleuri depuis 9h du matin. Il y a ici plus de 300 personnes. Et tous les 15 jours, c'est la même rengaine. Mais cette petite femme, dont on devine un sourire derrière son grand masque en tissu blanc, ne se formalise pas pour autant. Elle a l'habitude, dit-elle. Et elle craint plus de ne rien pouvoir acheter que d'être contaminée.
Oui, je crois que c'est vrai. Les Cubains en ont résisté suffisamment pour dire qu'on n'a pas vraiment peur du coronavirus. Les Cubains, je ne sais pas, des fois j'ai l'impression qu'on est différent. Je ne sais pas si c'est génétique ou après tant d'années de révolution, mais je n'ai pas vraiment peur du coronavirus. Et puis on fait attention. Je ne crains pas non plus de manquer parce que le fondamental, on l'a. Bon, je n'ai plus de dentifrice et il n'y en a pas en magasin, mais le fondamental, on le trouve. On a l'habitude de vivre comme ça. Peut-être qu'ailleurs dans le monde, ça a vraiment changé les choses.
Gretel a le numéro 268 et même après 3 heures de queue à la recherche d'un peu d'ombre et sans ticket, Théodis Hernandez, qui porte une casquette et un t-shirt militaire, refuse de se plaindre, surtout en présence d'un micro.
Ici, nous sommes doublement bloqués à cause du coronavirus, mais aussi à cause du blocus américain, et c'est ce qui nous affecte le plus en ce moment. C'est vrai, il y a des pénuries, mais personne ne meurt de faim parce qu'il y a le panier de base et certains aliments nous parviennent. Pour le reste, c'est plus compliqué, alors il faut faire la queue. Mais nous résistons, et nous résisterons parce que nous sommes cubains, nous sommes socialistes, fidélistes et révolutionnaires.
Somos socialistas, somos fidelistas y somos revolucionarios.
Le panier de base dont parle Théodis, c'est ce à quoi donne droit le carnet de rationnement, mis en place en 1962 pour atténuer les effets des pénuries provoquées par les sanctions américaines d'alors et d'aujourd'hui encore. Chaque famille cubaine possède une libreta, un petit carnet gris qui permet d'acquérir une certaine quantité de produits par mois. Presque à chaque coin de rue à Cuba, il y a une bodega. À Playa, sur la 7e avenue, Hugo Murillo est le tenancier de ce petit entrepôt où le riz se pèse sur une vieille balance à poids et l'argent se garde dans une caisse enregistreuse d'une autre époque, sous l'œil attentif d'un portrait de Fidel Castro.
Dans ce magasin, on trouve les produits subventionnés par le gouvernement à un prix modique, établi sur le pouvoir d'achat de la population. Le basique, on trouve ici. Certains mois, il y a plus ou moins de produits.
Et ce mois-ci, ont été ajoutés justement un petit paquet de spaghettis, de la farine de maïs et 4 œufs par personne. Gustavo Pérez, quelques dents en moins et à la démarche douloureuse, touche une retraite de 300 pesos cubains, soit 12,5 dollars. Il vient récupérer son panier du mois pour moins de 1 dollar.
Voilà mes petites courses du mois. Du riz, du café, du sucre, quoi d'autre? Ah oui, des haricots noirs. Et c'est tout.
Maintenir ce système d'approvisionnement de proximité pour les Cubains est une priorité du gouvernement, même s'il ne couvre pas tous les besoins du mois et même si Cuba est confronté à des difficultés d'importation. La production agricole qui fait défaut redevient une priorité nationale en ces temps de crise. Le système économique planifié et centralisé a rendu l'agriculture cubaine moins productive et il est difficile à Cuba de faire pousser des pommes de terre. Alors devant cette bodega, s'est formée une autre file d'attente. Melurgia Garcia, comme tout le monde, n'a droit qu'à un sac de pommes de terre par mois, et encore ce n'est pas tous les mois de l'année.
Je trouve qu'en ce moment on a plus de produits qu'avant, ils approvisionnent plus les points de vente. Bon, il y a toujours des pénuries, mais jusqu'à présent le gouvernement fait en sorte qu'il y en ait pour tout le monde.
Mais le président Miguel Díaz-Canel a récemment avoué que le pays dépensait de l'argent qu'il n'avait pas pour faire face à cette situation. L'économie atteint donc un stade critique et le président qui apparaît chaque jour à la télévision depuis le début de l'épidémie, avec un masque en tissu blanc brodé d'une étoile dans un triangle rouge et de Cuba en lettres bleues, souhaite mettre en place une politique de substitution des importations.
Il faut en finir avec cette mentalité importatrice. La première chose à laquelle il faut penser, c'est le fait qu'on ne peut pas importer. Et puisqu'on sait que les finances sont compliquées, il faut penser à comment on exporte pour enflouer les caisses. Et pour les magasins qui vendent des produits importés, il faut produire. Si vous vendez des biscuits, alors il faut fabriquer des biscuits. Vous vendez des sodas, faites des sodas. Du fromage, eh bien, vous faites du fromage. Petit à petit, bien sûr, ça ne se fera pas d'un coup. Mais il faut y penser pour que le pays se développe.
Le gouvernement tente donc de sortir l'économie cubaine de son marasme avec une nouvelle planification économique et une réorientation des investissements dont une grande partie était destinée jusqu'à présent au tourisme. Durant cette crise aggravée par le coronavirus, le budget de l'État a été réorienté vers la production alimentaire et la santé. Selon la médecin Yvonne Pérez-Lapinel, que nous retrouvons à présent dans son cabinet, c'est le système de santé axé sur la prévention qui a permis de lutter contre l'épidémie. Avant d'entrer dans ce cabinet de consultation rudimentaire, on se lave les mains avec un mélange d'eau et de chlore. Ici, la jeune médecin avec l'infirmière ont à charge 907 personnes qui vivent dans ce quartier de la Havane. Cuba est ainsi quadrillé et compte 9 médecins pour 1000 habitants.
Je crois que c'est aussi lié à l'organisation du système de santé cubain. Pour tout problème de santé, les gens viennent directement ici et ensuite on décide si on les envoie à l'hôpital ou faire d'autres examens et ensuite s'ils sont hospitalisés. Je crois que c'est un avantage et ce qui nous a aidé à avoir moins de contamination à Cuba, contrairement à d'autres pays, c'est ce travail de premier niveau d'attention sanitaire.
Ainsi, Cuba a surmonté cette crise épidémiologique, mais la crise économique s'aggrave et se mesure désormais à la longueur des files d'attente. La nourriture, mais aussi les produits d'hygiène viennent à manquer, tout comme l'eau et parfois l'électricité, car le confinement a fait augmenter la consommation et le combustible peine à parvenir jusqu'à l'île. Cuba manque aussi de touristes. La fermeture des frontières est un coup dur économique pour l'île, comme l'explique l'économiste Ricardo Torres, pour qui Cuba est un pays particulièrement vulnérable pour affronter cette crise économique liée au coronavirus.
Cuba dépend de certains secteurs qui sont très affectés par la pandémie. D'abord le tourisme, ensuite les remessas, les mandats d'argent envoyés depuis l'étranger aux familles, qui proviennent principalement des États-Unis où le taux de chômage atteint déjà les 14,7%. Donc on peut envisager une baisse en volume de l'argent envoyé depuis l'étranger à Cuba. Troisièmement, les exportations de certains produits cubains qui se consomment dans des secteurs durement touchés par la crise. Le secteur récréatif en général est très lié à l'exportation de rhum et de cigares, donc il y aura un impact sur ces exportations. Quatrième élément qui est important aussi pour le pays, c'est que Cuba n'aura pas accès aux mécanismes de compensation qui vont être mis en place par les organismes internationaux comme le FMI, la Banque mondiale ou la Banque interaméricaine de développement.
FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.
Et cinquième élément, Cuba est endetté. Sous le coup des sanctions américaines, le pays peinait déjà à régler ses créanciers et a demandé, dans ce contexte de crise mondiale, un moratoire de sa dette jusqu'en 2022. Cuba, pour sortir de la crise sanitaire, a pu compter sur son système de santé performant. Mais l'île pourra-t-elle aussi profiter économiquement de ce secteur qui a permis l'envoi d'une vingtaine de brigades médicales dans le monde et le développement de traitements médicamentaux?
Coronavirus sous contrôle, l'économie cubaine dans un état critique, un grand reportage de Domitille Piron, réalisation Pierre Chaffanjon.
Cuando esa enfermera viene, por eso como un cañón, salgo a aplaudir a las nueve, por eso como un cañón, salgo a aplaudir a las nueve. ¿Qué dice? Y dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera.
Vous avez entre 15.